Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 10 novembre 2023. L'Amérique rend hommage à tous les anciens combattants qui ont servi ou servent encore en temps de paix et en temps de guerre dans le cadre de Veterans Day. Le plus grand complexe hospitalier de la bande de Gaza a subi aujourd'hui une frappe meurtrière alors que des combats font rage entre l'armée israélienne et le Hamas. Crise électorale à Madagascar, les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs organisations ont exprimé leurs profondes préoccupations suite aux incidents violents des derniers jours.
Ce qui est important, c'est par rapport à la paix et la non-violence dans les activités politiques et que Madagascar ne plongerait pas de nouveau dans une crise économique, une crise politique, on peut dire qu'on l'a actuellement.
David Rajaon, enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Madagascar, nous apportera son éclairage sur les tensions en cours sur la Grande Île dans la partie magazine. Les Libériens retournent aux urnes mardi pour le second tour de la présidentielle. Le président George Weah fait face à Joseph Boakai. L'ONU met en garde contre une augmentation des violences au Darfour. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Les États-Unis rendent hommage aux militaires en activité et à la retraite. Le Veterans Day est célébré le 11 novembre qui coïncide avec l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Le point avec Abdourahman Dia.
Les États-Unis ont payé en lourd tribut lors de la Première Guerre mondiale. Le pays a perdu plus de 53 000 personnes tuées au combat et des dizaines de milliers ont été blessées. Les plus de 63 000 autres décès non liés au combat étaient principalement dus à la pandémie de grippe de 1918. Comme chaque année, plusieurs cérémonies sont organisées à travers le pays pour honorer les Américains ayant servi sous les drapeaux avec honneur. C'est aussi l'occasion pour les États-Unis de décorer et d'honorer les militaires d'active pour leur service à la nation. À New York, par exemple, c'est en 1929 qu'a eu lieu le premier défilé du Veterans Day. Et depuis, chaque année, des milliers de personnes participent à cette parade, l'une des plus importantes du pays. En 2023, le budget du département qui s'occupe des anciens combattants a dépassé 300 milliards de dollars.
Le président américain Joe Biden rencontrera mercredi le président chinois Xi Jinping en tête à tête pour la première fois depuis un an, a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche. La Maison-Blanche a confirmé aujourd'hui la date de la réunion dans un communiqué. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dit de son côté que Xi Jinping se rendrait bien aux États-Unis du 14 au 17 novembre, qu'il assisterait au sommet APEC et qu'il rencontrera Joe Biden. Les responsables américains qui réclament cette rencontre depuis près d'un an estiment que Pékin s'efforce activement de saper la politique américaine dans le monde. Le Congrès américain n'a plus qu'une semaine pour s'entendre sur un nouveau budget et éviter la paralysie de l'administration fédérale. Aucune des deux chambres du Congrès, ni le Sénat aux mains des démocrates, ni la Chambre des représentants contrôlée par les républicains ne sont pour l'instant parvenus à adopter une loi de finances pour prolonger le budget de l'État fédéral qui expire à minuit dans la nuit de vendredi 17 novembre à samedi. Sans accord d'ici cette date, les fonctionnaires seront privés de salaire, le trafic aérien sera perturbé tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte close en raison du fameux shutdown. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 35e jour ce vendredi. Cette guerre a déjà fait plus de 10 000 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas, en plus des 1400 morts côté israélien. Le point avec Mohamed Oumfa.
Le gouvernement du mouvement palestinien à Gaza a estimé que 13 Palestiniens avaient été tués et des dizaines d'autres blessés aujourd'hui dans une frappe israélienne sur le complexe de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand du territoire pilonné par Israël. L'armée israélienne n'a pas communiqué dans l'immédiat sur une telle opération, mais jeudi soir, un porte-parole militaire avait indiqué qu'une division de l'armée menait d'importantes opérations dans une zone très proche de l'hôpital Shifa, située dans l'ouest de Gazaville. Le Hezbollah libanais a affirmé ce vendredi que 7 de ses combattants avaient été tués par des frappes israéliennes, sans préciser où ni quand. Depuis le 7 octobre, au moins 90 personnes ont été tuées dans les violences à la frontière côté libanais, dont 68 combattants du mouvement chiite. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué la décision d'Israël d'accepter des pauses humanitaires, tout en estimant qu'il restait encore beaucoup à faire pour protéger les civils. Il a affirmé que ces pauses de 4 heures tous les jours allaient permettre de sauver des vies et de procurer plus d'aide à la bande de Gaza. Il a précisé que les États-Unis travaillaient sur des plans concrets pour ce faire. La Russie a annoncé l'envoi de 25 tonnes d'aide humanitaire vers la population de la bande de Gaza à partir de l'Égypte, qui contrôle le terminal de Rafah entre le territoire égyptien et le territoire palestinien. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une nouvelle fois à propos de Gaza aujourd'hui, à la veille d'une réunion d'urgence à Riyad des dirigeants de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique qui craint une escalade du conflit dans la région.
Le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé aujourd'hui, jeudi, que des élections anticipées seraient organisées le 10 mars 2024 après que le premier ministre António Costa a annoncé mardi sa démission. Le président portugais a déclaré que le gouvernement resterait en fonction pour le moment, mais que des élections étaient nécessaires pour apporter clarté et orientation afin de surmonter un vide inattendu qui a surpris et perturbé les Portugais.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU met en garde contre une augmentation des violations des droits humains au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Les combats se sont intensifiés au 7e mois de la guerre entre l'armée et les paramilitaires. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Plus de 800 personnes auraient été tuées par des groupes armés à Ardamata, au Darfour ouest, une zone jusqu'ici moins touchée par le conflit. C'est ce qu'indique l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Son porte-parole à Genève, William Spindler, ajoute que ces personnes auraient été tuées au cours des derniers jours. Ardamata abritait un camp pour les personnes déplacées à l'intérieur du Soudan. Près de 100 abris y ont été rasés selon le HCR, qui soutient que de nombreux pillages, surtout de ces articles de secours, ont eu lieu dans la région. L'organisation onusienne se dit alarmée par les informations faisant état de violences sexuelles, de tortures, d'assassinats arbitraires, de civils extorqués et de groupes ethniques ciblés. Elle dit se préparer à un nouvel afflux de réfugiés au Tchad, où plus de 8000 personnes sont arrivées au cours de la semaine dernière, selon le HCR. Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts, selon une estimation de l'ONG Acled. On compte plus de 4,8 millions de déplacés internes et 1,2 million vers les pays voisins, d'après le HCR.
Les électeurs libériens retournent aux urnes mardi 14 novembre pour le second tour des élections. Le président libérien George Weah affrontera son adversaire Joseph Boakai. Ce sera la deuxième fois que les deux hommes politiques s'affrontent lors d'un second tour de scrutin. Alexandrine Olognon.
Il s'agit donc d'un remake du second tour de l'élection de 2017. Weah, surfant sur une vague de soutien populaire, avait battu Boakai avec plus de 61% des voix. Il avait gagné en promettant de s'attaquer à la corruption et d'améliorer les moyens de subsistance. 6 ans plus tard, certains électeurs sont désenchantés. Ils pointent du doigt l'incapacité de Weah à lutter contre la corruption, le chômage élevé des jeunes et les difficultés économiques en général. Boakai, quant à lui, s'est assuré le soutien de 3 des 4 candidats les plus performants qui ont été éliminés au premier tour. Pour les 2 candidats à la présidence, les quelques 6% de votes invalidés au premier tour constituent une inconnue de taille. Bien que le premier tour ait été largement pacifique, les analystes estiment que le second pourrait être tendu et donner lieu à des troubles dans les rues.
Des représentants de 175 pays se réunissent à partir de lundi au Kenya pour négocier pour la première fois des mesures concrètes qui doivent être incluses dans un traité mondial contraignant pour mettre fin aux déchets plastiques. Les négociateurs se sont déjà réunis à 2 reprises, mais le rendez-vous du 13 au 19 novembre à Nairobi, siège du programme des Nations Unies pour l'environnement, constitue la première occasion de débattre d'un projet de traité publié en septembre qui dessine les nombreuses voies permettant de résoudre résoudre le problème du plastique. Et puis le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a invité aujourd'hui les investisseurs saoudiens à venir dans son pays, première économie d'Afrique, à l'occasion du sommet Afrique-Arabie Saoudite à Riyad, selon la présidence nigériane. La visite de l'État, du chef de l'État nigérian s'est en outre soldée par la signature d'un accord de coopération entre les deux pays, entérinant une volonté politique de renforcer les relations bilatérales. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lindon.
Le Fonds saoudien pour le développement signera des accords d'une valeur de 2 milliards de riyals, soit l'équivalent d'environ 533 millions de dollars avec des pays africains. L'annonce, relayée par l'agence Ecofin, a été faite par le ministre saoudien des Finances, Mohamed Al-Jatan, à l'ouverture de la conférence économique saoudo-arabo-africaine qui a démarré jeudi à Riyad. Le ministre saoudien de l'investissement, Khalil Al-Falil, a de son côté indiqué que le fonds souverain du Royaume d'Arabie saoudite, qui dispose de plus de 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion, prévoit également d'annoncer des investissements significatifs en Afrique. Le Kenya va rembourser par anticipation une partie de son eurobond de 2 milliards de dollars qui arrivera à échéance en juin 2024. Le président kényan, William Ruto, en a fait l'annonce après avoir obtenu des promesses de financement de la part de plusieurs bailleurs de fonds. Nous n'hésiterons pas à relever encore les taux directeurs si nécessaire face à la forte inflation, a averti jeudi le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell. La Fed s'engage à parvenir à une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2%, a-t-il dit lors d'une conférence au FMI à Washington. C'était la Minute Éco avec John Lindon pour VOA Afrique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Les représentants africains réussissent leur début du mondial des moins de 17 ans en Indonésie.
Oui, le Mali cartonne d'entrée dans le groupe B. Victoire des Aiglons 3-0 devant l'Ouzbékistan. Auteur d'un triplé, l'attaquant malien Mamadou Doumbia a été élu homme du match. Prochain match pour le Mali, lundi 13 novembre face à l'Espagne qui a battu le Canada 2-0. En cas d'une deuxième victoire, les Maliens se qualifieront pour les huitièmes de finale. Idem pour le Maroc qui s'est imposé 2-0 face au Panama dans la poule A. Lundi, les Lionceaux de l'Atlas feront face à l'Équateur avant leur dernier match de groupe contre le pays hôte, l'Indonésie. Équatoriens et Indonésiens se sont neutralisés un but partout en match d'ouverture. Deux autres représentants africains attendent de faire leur entrée en lice. Dans le groupe E, le Burkina Faso affronte la France ce dimanche 12 novembre. Bien avant, le Sénégal fait face à l'Argentine demain samedi dans la poule B.
En Côte d'Ivoire, la Ligue des champions féminines entre dans sa dernière phase de groupe.
Les rencontres de la deuxième journée ont été bouclées hier avec les matchs du groupe B à San Pedro. Après sa défaite d'entrée, l'ASFA de Rabat, champion en titre, s'est relancé en battant 1-0 les Équato-Guinéennes d'Huracan. Dans l'autre rencontre de ce groupe B, les Maliennes de l'AS Mandé ont pulvérisé les Ghanéennes d'APEM dans quoi 3-0. Demain, le groupe A effectue sa troisième et dernière sortie de groupe à Korogo dans le Nord. Déjà qualifiés pour les demi-finales, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns font face aux hôtes ivoiriennes de l'Atlético d'Abidjan et le Sporting de Casablanca joue contre les Tanzaniennes de JKT Queens.
Nuit notoire en NBA pour Giannis Antetokounmpo.
Le grec d'origine nigériane, joueur star des Milwaukee Bucks, a réussi le record de points de la saison NBA. Giannis Antetokounmpo a inscrit 54 unités, mais sans pouvoir éviter une défaite des siens, 126-124 sur le parquet d'Indiana. Double MVP 2019 et 2020, champion en 2021. Il a été proche de son record de 55 points réussis la saison dernière face à Washington. Avec 54 points, il est le joueur qui a marqué le plus en un match cette saison, devant les 51 points de Zach Levine de Chicago Bulls. Dans l'autre match de la nuit dernière en NBA, Orlando s'est incliné devant Atlanta 119-120.
Toujours ici à NBA, le musée LeBron James ouvrira ses portes à Akron.
Le quadruple champion NBA va ouvrir son musée officiel le 25 novembre dans sa ville natale d'Akron, dans l'Ohio, selon la fondation de la famille James. Le site web de la fondation décrit le home court de LeBron James comme une promenade dans la vie et l'héritage de l'enfant d'Akron qui était un adolescent prodige et qui est devenu une superstar mondiale. Le Home Court va aussi proposer une expérience de narration multimédia qui offre un regard sur la vie de LeBron avec des objets jamais vus tout au long de son parcours, d'Akron à la NBA, aux Jeux Olympiques, aux affaires, à la philanthropie et au-delà. En février dernier, LeBron James a dépassé Karim Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.
Page de sport VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à Le Coup du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À une semaine du premier tour de la présidentielle à Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé hier la suspension de l'élection. La présidentielle avait déjà été reportée une fois dans un contexte tendu de manifestations régulières de l'opposition depuis plus d'un mois. Le camp du président sortant, André Rajoel, candidat à sa propre réélection, a immédiatement rejeté cette demande jugée farfelue. Yakuba Ouedraogo a joint à Antananarivo, la capitale malgache, David Rajaon, enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Madagascar.
La situation à Madagascar, il y a au moins deux, trois problèmes qui se posent. Comment le pays doit se construire à partir de ce qu'est la démocratie? Deuxièmement, comment cette démocratie-là serait mieux exprimée pour qu'il y ait une paix et harmonie et aussi développement à Madagascar? Le troisième point, c'est la démarche des acteurs politiques spécifiquement. Et sur ces trois plus ou moins problèmes, la tendance est de pouvoir, je dirais, s'ajuster mutuellement au niveau aussi bien législatif que exécutif, et bien évidemment sur l'aspect de mise en marche de la démocratie, c'est-à-dire l'élection. Aujourd'hui, donc, est-ce que le moment est venu pour que l'élection se passe très bien? Le régime actuel pense qu'il faut suivre les programmes qui ont été déjà planifiés dans un cycle normal de démocratie. De l'autre, l'opposition et d'autres pensent qu'il y a quand même un besoin de discuter sur quelques aspects autour de l'élection.
C'est quoi le point de discorde véritable entre le pouvoir et l'opposition au point que ce soit aussi tendu?
L'ancien président de la Cour constitutionnelle disait à l'époque que Madagascar n'est pas Antananarivo. Tout de même, tout part du capital. Les problèmes dans les autres régions ne sont pas les problèmes évoqués au niveau du capital. Maintenant, on sait qu'il y a un pouvoir fort. La question pour l'opposition, est-ce qu'il y a une possibilité ou il y a une alternance sur ce pouvoir?
L'opposition ne croit pas au processus électoral?
Ce qui m'étonnerait un peu, en fait, c'est qu'au début, ils étaient pour le processus électoral. Mais au bout de deux mois ou trois mois de début de campagne, il y a un changement d'approche.
Pourquoi le changement selon vous?
On sent que l'opposition n'a pas réellement de chance dans le processus actuel. Le problème, en fait, ils n'ont pas pris assez tôt en main les choses, c'est-à-dire un rôle d'un parti politique, c'est d'aller convaincre, et pas seulement à Antananarivo, dans toutes les provinces, et porter des projets. Et je pense que cela n'a pas été fait dans les temps.
L'opposition manifeste depuis plus d'un mois. La présidente de l'Assemblée nationale demande une suspension. La communauté internationale met en garde. Il y a des organisations aussi de la société civile à Madagascar qui interpellent. Est-ce que le pouvoir va reculer et accepter un deuxième report de l'élection présidentielle?
Les deux côtés changent. Surtout l'opposition change énormément de position. Ce qui est important, c'est par rapport à la paix et la non-violence dans les activités politiques, et que Madagascar ne plongerait pas de nouveau dans une crise économique, une crise politique, on peut dire qu'on l'a actuellement.
David Rajaon, enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Madagascar.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le Mali abrite depuis hier et ce jusqu'à demain le Forum régional sur la sécurité au Sahel. Ce forum auquel prennent part des ministres en charge de l'environnement, de la zone du Sahel a pour objectif de sensibiliser les pays de la région et leurs partenaires à la sécurité climatique, d'harmoniser les actions pour apporter des réponses aux défis sécuritaires. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Ce forum de trois jours qui pose la problématique de la consolidation de la paix, la sécurité et la promotion de l'environnement et le développement local dans les pays du Sahel fait comprendre à travers la présence de nombreux experts les liens entre le climat et la stabilité dans le Sahel. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement.
La région est, disons, pilule aujourd'hui de groupes armés terroristes. Donc, les populations deviennent vulnérables à l'appel de ces terroristes-là. Et malheureusement, certaines de ces populations tombent dans ces pièges. Mais c'est dû à leur vulnérabilité, en fait. Voilà. Donc, les liens tout de suite entre le climat, les conséquences du changement climatique, la paix et la sécurité.
Selon Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali, partenaire de l'État dans l'organisation de ce forum, au-delà des ministres des 10 pays du Sahel présents, il faut associer la communauté aux discussions pour trouver des solutions pérennes.
Ça, c'est une question qui doit être réglée en concertation avec les communautés, bien entendu avec les autorités, pour que les politiques nationales créent des espaces pour que ces concertations au niveau local se fassent pour anticiper sur les conflits.
À la veille de la COP28 qui doit se tenir à la fin de ce mois à Dubaï, la déclaration de Bamako qui doit sanctionner les travaux doit contenir la vision unique de ces pays. Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali.
Nous allons à la COP28 à Dubaï à la fin de ce mois. Il est important que le Sahel arrive à Dubaï avec sa position. Et je crois que l'idée des ministres des autorités politiques, c'est vraiment d'avoir cette conversation ici à leur niveau et d'aller à Dubaï avec une position qui est clairement articulée sur comment ils attaquent cette question-là et comment ils vont travailler ensemble pour harmoniser leurs différentes politiques.
À partir de ce forum, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, regroupés au sein du Liptako Gourma, entendent adopter une stratégie commune sur le climat. Hawa Aou, secrétaire exécutif de l'autorité de Liptako Gourma.
On est dans un grand continuum de développement, sécurité, vu la situation qui se vit dans nos trois États, d'élaborer une stratégie de stabilisation de la région de Liptako Gourma, qui sera complétée aussi avec une stratégie sur les nationales des trois États sur le climat. Ces éléments nous permettront de répondre à la question de sécurité, à la question climatique et aussi à la question de paix.
Compte tenu du fait que la question est désormais au rang de priorité nationale de tous les pays, le PNUD dit avoir à ce jour récolté plus de 24 milliards de francs CFA auprès des partenaires pour les accompagner. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Les autorités zambiennes affirment que le commerce avec la Chine a augmenté pour atteindre plus de 5 milliards de dollars en 2022. L'augmentation des échanges a entraîné aussi un afflux de produits chinois sur les marchés locaux. Certains Zambiens apprécient le fait d'avoir un plus large choix de produits, mais d'autres ne sont pas satisfaits de la concurrence. Un reportage de Cathy Short à Lusaka. En Zambie, récit d'Ilidico.
Jones Ngala est un commerçant au marché Cha-Cha-Cha à Lusaka. Il vend des produits de quincaillerie importés d'Afrique du Sud. Avant, il vendait des vêtements, mais il a arrêté après s'être rendu compte qu'il ne pouvait pas rivaliser avec les textiles chinois moins chers.
Je vendais des vêtements, puis j'ai décidé de me lancer dans la vente de matériel de quincaillerie pour relancer mon activité après avoir été victime des produits chinois bon marché.
Isaac Mwapé, un autre commerçant de Lusaka, vend des produits électroniques importés de Chine.
La Chine produit tous les types de produits que nous voulons. Nous vendons des téléphones, des ordinateurs portables, ils sont très bons.
Dans les rues de Lusaka, les consommateurs ont des opinions diverses sur les importations chinoises.
Je préfère les produits occidentaux parce qu'ils sont durables. Les produits chinois, c'est non, parce qu'ils ne sont pas durables et ne sont pas top non plus.
Je suis favorable à ce que la Chine se rapproche de nous, car elle a toujours été là pour nous, les Africains, et nous aimons les produits chinois.
Emmanuel Zulu, économiste, estime que des pays comme la Zambie n'ont pas bénéficié pleinement des investissements chinois. Il souhaiterait que les autorités zambiennes et chinoises se consacrent davantage sur l'apport de marchandises en Zambie, mais aussi de compétences et de produits manufacturés, afin de garantir une situation gagnant-gagnant pour les deux pays.
Elle a certes contribué à rendre accessibles les produits qui ne sont pas fabriqués localement, mais elle a également fortement concurrencé les produits fabriqués localement en Zambie. Et, dans une certaine mesure, elle a aussi causé l'absence de développement de la base industrielle en Zambie.
Le président zambien, Hakainde Hichilema, en visite d'État à Pékin en septembre, a signé plusieurs accords bilatéraux avec la Chine. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Mulenga, a déclaré à la VOA que son gouvernement travaille en étroite collaboration avec les autorités chinoises pour mettre en place des usines de fabrication et de transfert de compétences pour les Zambiens dans les domaines de l'exploitation minière, de l'électronique, du textile et de l'agriculture.
Les colons israéliens qui vivaient dans la bande de Gaza jusqu'au retrait unilatéral de 2005 envisagent désormais d'y retourner. Bien que le gouvernement israélien n'ait pas approuvé cette décision, beaucoup d'entre eux estiment que la guerre d'Israël contre le Hamas est l'occasion pour eux de retourner dans les colonies qu'ils ont abandonnées. Yann Bouchat nous en dit plus depuis Jérusalem. Le récit est de Joselle Morissin.
Ils ne l'appellent pas Gaza. Ils l'appellent leur maison. Pour des milliers d'Israéliens qui vivaient dans la bande de Gaza jusqu'en 2005, date à laquelle le pays a retiré toutes ses forces et ses colonies, l'espoir est grand qu'ils seront autorisés à y retourner lorsque la guerre entre Israël et le Hamas prendra fin. Israël n'a pas indiqué si un retour serait possible.
Aujourd'hui, je me dis, waouh, vous savez, c'est encore vide. Vous pouvez regarder la carte, regarder Google Maps. C'est ici que nous devrions construire une belle grande ville, peut-être pour les juifs ultra-orthodoxes qui veulent venir y vivre.
Née à New York, Anita Tucker est venue en Israël dans les années 1960 et a vécu dans une colonie à Gaza pendant 30 ans. Elle faisait partie d'un groupe de colons que le gouvernement israélien a emmené dans la bande de Gaza dans les années 1970 pour y développer l'agriculture. Au total, une vingtaine de colonies ont été établies à Gaza, souvent dirigées par des juifs religieux.
Entre 1982 et 1995, c'était un endroit idyllique, calme, paisible, avec une vue magnifique sur la mer, un endroit très agréable à vivre. Les gens venaient en visite et disaient « Ok, c'est comme des vacances ».
Mais au milieu des années 90, dit-elle, les choses ont commencé à changer. La violence est devenue monnaie courante, surtout après la première intifada. De nombreux colons qui vivaient à Gaza disent que la décision d'Israël de s'engager dans le processus de paix avec les Palestiniens a été une erreur qui a changé leur vie. Orna Friedman se dit prête à rentrer dès que les forces israéliennes contrôleront le territoire. Elle conserve des photos et des souvenirs de Gaza partout dans sa maison. Quand elle est partie, elle a apporté un olivier et l'a planté ici. Anita Tucker, elle aussi, conserve des souvenirs de Gaza, mais elle a peu d'espoir de vivre à nouveau parmi les Palestiniens, bien que ses voisins, dans cette communauté rurale du centre d'Israël, soient déjà en train de planifier les nouvelles villes à construire dans l'enclave après la guerre.
Nous commençons à travailler. Nous avons parlé à des urbanistes et nous avons parlé à des gens qui vérifient les terrains, qui ont les cartes du passé, de l'avenir, pour voir les bons endroits. Vous savez,
le gouvernement israélien n'a pas dit qu'il avait l'intention d'autoriser ses colons comme Friedman, Rosen, Tucker et d'autres à revenir à Gaza. Israël n'a pas non plus annoncé de plan pour l'avenir de Gaza, après sa guerre contre les militants du Hamas, une guerre qui se poursuit sans fin en vue.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.